Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast du blog Batteur sans limite. Aujourd'hui, je suis avec Alexis Godard qui étudie cette année à l'école de musique de Berklee à Boston. Salut Alexis.
Salut.
Et donc, on va commencer tout d'abord par voir ce qu'est Berklee, Berklee prononcé en français, et pourquoi cette école est si connue, pourquoi on en parle tellement, et comment faire pour y entrer, pour ceux que ça intéresserait. Alors pour commencer, Alexis, est-ce que tu pourrais te présenter en nous disant simplement ton âge, d'où tu viens, et quand est-ce que tu as commencé la batterie?
Alors, j'ai 21 ans. Je viens d'un petit village qui s'appelle Villeneuve-le-Comte, c'est à l'est de Paris, du côté de Marne-la-Vallée, à côté de Disney. Et j'ai commencé la batterie vers l'âge de 10 ans, quand je suis tombé sur un album de Deep Purple avec Ian Paice à la batterie. Et
Ouais.
ça m'a... Voilà.
Depuis, t'as pas
C'est ce qui
lâché,
m'a
d'accord.
commencé. Depuis, j'ai pas lâché, ouais. Tout
Ouais,
simplement.
ok, donc une petite dizaine d'années, très bien. Et alors, première question qui nous amène du coup à la présentation de l'école. Pourquoi est-ce que t'as choisi Berklee plutôt que, par exemple, il y a le MI à Los Angeles, en Californie, ou alors une autre école en France?
C'est une très bonne question. À vrai dire, jusqu'à l'année dernière, jusqu'en février, je ne pensais pas partir en fait. J'ai fait l'audition pour l'école un petit peu, pas au hasard, parce que quand même, il n'y a pas de hasard, mais j'avais envie de tester un peu cette école qui est, à mon sens, un peu plus connue que l'école qui est par exemple à Los Angeles ou le Musician Institute ou le MI.
Ouais.
Et je sais pas trop pourquoi j'ai choisi Berklee ou plus que les MI. J'ai pas
Tiens, c'est
trop.
marrant ça. Du coup, c'est peut-être le prestige de la marque.
Ouais.
J'imagine Berklee, peut-être que même ceux qui sont pas musiciens, peut-être que j'exagère là, mais peut-être que ceux qui sont pas musiciens connaissent aussi. C'est
Oui.
vraiment un gros nom. Alors que le MI, le Musicians Institute, je sais que si j'en parle avec mes amis qui sont pas musiciens, c'est mort. Là,
Ah
il y
ouais.
a
Je pense
personne.
pas qu'ils connaîtront.
Non,
Ouais, tout
carrément pas.
simplement, Berklee, c'est un peu plus connu, tout simplement. Ouais.
D'accord, ok. Et alors, tu as commencé, donc là, au moment où on fait ce podcast, c'est le 23 novembre. Tu as commencé quand exactement?
J'ai commencé début septembre,
Début
tout simplement.
septembre.
Ouais.
Ok, donc ça fait 3 mois quoi que tu y es pour l'instant. Et alors, qu'est-ce que tu suis comme cours et comme option? Qu'est-ce que propose Berklee comme formation?
Alors, il y a énormément de trucs à Berklee. Il y a énormément de cours dans plein, plein, plein de domaines différents, mais toujours dans la musique. Hein. Et le premier semestre, on choisit pas vraiment ses cours. C'est plus une sorte de mise à niveau pour que les élèves puissent voir un petit peu tous les cours qu'offre l'école et histoire de mettre un peu tout le monde sur le même plan.
Ouais.
Donc, ce semestre, j'ai harmonie. Donc, ça, c'est de l'harmonie jazz.
OK.
Il y a aussi de l'harmonie classique à Berklee, mais ça c'est pour les semestres d'après ou pour les élèves qui jouent un instrument classique. J'ai aussi de l'ear training. Donc ear training, ça va plutôt être des dictées, des relevés d'accords, de l'oreille, du solfège, un peu de la lecture. Donc ça c'est les cours qui s'appellent les core music. Ça c'est les cours que tous les élèves à Berklee doivent faire.
D'accord, donc tous les
On doit tous
instruments.
faire
C'est pas que les
tous
batteurs,
les
là,
instruments.
c'est tous les instruments, quoi.
Et même ceux qui font, bon, on peut en parler après, mais il y a aussi un cursus musique de film, un cursus ingé son, qui sont des cursus super réputés aussi.
Ouais.
Et donc même ces gens-là, ils auront quand même 4 semestres d'harmonie, 4 semestres d'ear training à faire.
D'accord,
En tout
ok.
cas, avoir un niveau équivalent à 4 semestres d'harmonie, parce que tu peux aussi faire des tests pour te placer dans d'autres niveaux. T'es pas obligé de faire forcément harmonie 1 si tu as déjà fait du conservatoire, par exemple.
Ouais.
Tu vois.
D'accord, ok. Et donc là, vous êtes mélangés et c'est dans des gros amphithéâtres et
Ah non, pas du tout. Contrairement justement aux universités en général, à Berklee, je crois qu'il y a un rapport de 11 élèves pour un prof dans les classes en
D'accord.
général. Le seul cours, j'ai un gros cours qui s'appelle Introduction to MP&E, donc c'est un cours d'introduction pour tout ce qui est mixage, ingé son, l'histoire de l'enregistrement, de la musique, etc. On doit être 60 dans ce cours. Et sinon, tous les autres cours que j'ai, on est une quinzaine, une dizaine, ça dépend des cours. Donc tu vois, il y a vraiment, c'est pas exactement comme une université avec des gros amphis. J'ai jamais vu de gros amphis à Berkeley pour l'instant.
D'accord. Et alors là, du coup, c'est pour des choses qui paraissent très théoriques, en tout cas au début. Et est-ce que vous avez, bah, évidemment, des profs de batterie, des cours de
Tout à
percu,
fait.
des cours de batterie? Est-ce que tu peux parler un petit peu de ça? Quelles sont les thématiques exactement?
Alors, j'ai un cours de batterie par semaine. C'est 1 heure de cours, donc en cours particulier, avec un prof qui s'appelle Alberto Neto, un Brésilien. Donc voilà, tous les élèves de Berkeley ont un cours sur leur instrument, un cours particulier. Ils peuvent aussi prendre des labs. Donc ça, c'est des cours qui sont plus courts. C'est des cours d'une demi-heure et avec d'autres élèves. Et là, c'est plus des cours à thème. Par exemple, ça va être la musique d'Afrique de l'Ouest à la batterie, ou même des cours de basse, etc., etc. Il y a énormément de labs. Donc c'est un petit peu comme des cours d'instruments. Et donc voilà, ouais, tous les élèves vont des cours particuliers sur leur instrument.
Et alors, tu disais 1 heure par semaine?
1 heure par semaine de cours de batterie, ouais, particulier. Ouais.
D'accord. Ah,
Eh
je suis
oui.
étonné. Ça me paraît
Ben oui.
peu en fait. Est-ce qu'il y a d'autres pratiques du coup, une pratique avec par exemple où ce sera pas en particulier, où ce sera une pratique de groupe, où il y aura peut-être un prof avec un guitariste, un pianiste, un batteur, chanteur, etc.
Tout à fait. Pareil, tous les élèves doivent prendre un cours d'ensemble, un atelier. Ça, c'est 2 heures par semaine. Et donc là, c'est pareil, il y a énormément d'ensembles dans tous les styles. Il y a un ensemble métal, un ensemble Radiohead, un ensemble, beaucoup d'ensembles de jazz. Il faut savoir que Berkeley, à la base, c'est vraiment comme une école de jazz. Et donc voilà, il y a aussi cet aspect-là ensemble. Ouais.
Ok, et c'est marrant, comment est-ce qu'ils approchent ça différemment, par exemple, si on prend le métal et le jazz, comment est-ce qu'ils organisent ça différemment? Alors forcément, on va pas forcément retrouver les mêmes instruments déjà qui jouent, et est-ce que toi, tu choisis, par exemple, tu te dis, j'adore le jazz, je déteste le métal, je vais que au cours de jazz et je fais pas les métals, ou alors tu
Ouais, tout à
vas...
fait.
Ok.
Par contre, tu choisis pour le semestre. Tu peux annuler un cours, tu peux changer de cours pendant les 2 premières semaines, je crois. Mais bon, une fois que tu as choisi un cours, si tu le prends pour tout le semestre. Donc là, je vais pouvoir bientôt m'inscrire pour mes cours du prochain semestre. Et donc, je vais pouvoir choisir l'ensemble que je veux, enfin, en fonction des disponibilités, etc., pour mon second semestre.
D'accord, ok. Et ça ressemble à quoi alors ce cours d'ensemble? Comment voilà, et on arrive, il y a différents musiciens. Est-ce qu'on se dit, par exemple, tu parlais de un cours au Radiohead. Est-ce qu'on va faire, on commence par une reprise? Est-ce qu'on compose? Comment est-ce que c'est géré?
Alors, ça dépend, je dirais, surtout du prof, en fait. Moi, pour l'instant, ce semestre-là, j'ai 3 ensembles. Un qui s'appelle Mixed Style. En gros, les 3 ensembles, c'est ce qu'on appelle Mixed Style. Donc, c'est plutôt au prof et surtout aux élèves aussi. C'est nous qui choisissons les morceaux qu'on joue. Et donc, ça peut être des compos, ça peut être des reprises dans à peu près tous les styles de musique, quoi. Ça dépend vraiment des élèves avec qui tu vas te retrouver. Et du professeur.
D'accord, des goûts finalement. Ok,
Ouais.
mais il n'y a pas une grille, par exemple, à la fin du semestre, il faut maîtriser tel rythme de jazz, tel rythme de métal, tel rythme par exemple
Non.
Radiohead ou...
Ça, c'est plus. Ça serait plus quelque chose que tu vas retrouver dans les cours de batterie, où là, par contre, il y a pour chaque fin de semestre, il y a un examen où il faut savoir faire tel solo de caisse claire, faut montrer tel rythme, improviser sur telle métrique, etc., etc.
Ah.
En atelier, c'est plus un, comment dire, le but, c'est vraiment de jouer, et il n'y a pas vraiment de trucs précis à prouver à la fin du semestre.
D'accord. Donc c'est plus libre, ça laisse certainement plus part à la créativité qu'à la
Ouais, c'est ça.
reproduction.
Vraiment, c'est une simulation de groupe et de concert. À la fin, normalement, il y a un concert en public, à la fin de chaque semestre.
Ah, d'accord, à la fin de chaque semestre. Et en parlant de concert, les autres étudiants avec lesquels tu joues, tu peux jouer donc pendant ces cours d'ensemble. Et tu disais ça peut être des compos. J'imagine que pour composer, vous n'allez pas que le faire pendant le cours. Vous pouvez vous voir le soir, il y a des salles où vous pouvez répéter en tant que musicien où il y a assez de place pour tout le monde.
Tout à fait. Je crois qu'à Berkeley, il y a à peu près 300 salles de répétition.
OK.
Malheureusement, elles sont pas ouvertes toute la nuit. Bon, c'est peut-être une bonne chose, ça. Et donc, du coup, on peut réserver des salles. Bon, c'est assez, comment dire, c'est parfois très compliqué de trouver un créneau pour tout le monde et un créneau libre, etc. Et du coup, voilà, si on a besoin de répéter en dehors, il y a tout ce qu'il faut. Les salles sont fournies avec des batteries, pas de cymbales, par contre, en général. Donc, faut amener ses cymbales. Je ne savais pas ça au début.
D'accord.
Et donc, voilà, ouais, s'il y a besoin de répéter, pour un ensemble ou même pour un groupe qui n'a rien à voir avec l'école, hein, ça peut être juste un groupe de musique entre élèves.
Ah,
Il y a
ouais.
tout ce qu'il faut pour répéter sur place, ouais.
Donc même si tu, enfin, qui n'a rien à voir avec l'école, si tu trouves d'autres personnes à Boston, un cas extrême qui n'ont rien à voir avec avec Berkeley, qui ne font pas partie de l'école, ça vous fait une salle de répète? Tu pourrais les amener et répéter avec eux dans la salle?
Ouais, techniquement, je pense que c'est possible. J'ai jamais joué avec des gens extérieur de Berkeley, je crois.
Ouais, bah de toute façon, j'imagine que pour trouver des
Toute façon,
musiciens, t'as pas besoin d'aller bien loin, mais c'est d'accord, ok.
Ouais, je crois qu'il y a 4000 élèves, à peu près.
Ah, et combien de batteurs là-dedans?
Je dirais 10% de 10% de percussion
Ouais, batteur,
et
batterie,
d'appel.
percussion, quoi.
Ouais.
Ok, et donc il y a l'ensemble, il y a les cours d'ensemble, il y a les cours particuliers, et j'imagine que de toute façon, oui, tu peux répéter avec les groupes, tu peux aussi répéter tout seul, tu as le temps de répéter tout seul le soir ou entre midi et deux, etc. Et est-ce que
Exactement.
tu pourrais nous dire une semaine type, ça ressemble à quoi? Ou une journée type, si ça a plus de sens pour toi, à quoi ça ressemble?
Ouais, parce que chaque jour est vraiment différent. Ah tiens, attends, je vais prendre mon emploi du temps comme ça, je vais te dire ça en direct.
Ouais.
Donc ouais, pour moi, chaque journée est vraiment très différente. Il y a des jours où j'ai quasiment pas cours, donc je peux travailler ma batterie, faire mes devoirs.
Ouais.
Et puis il y a des jours où j'ai 7 heures de cours. Donc ça dépend. Par exemple, le lundi, à 10 heures, j'ai ear training. Ensuite, j'ai mon atelier pendant 2 heures. Ensuite, j'ai un cours d'anglais, puisque je suis étudiant international, donc il y a des cours d'anglais.
Ouais.
Et ensuite, je finis avec un cours sur Pro Tools, le logiciel
Ouais.
d'enregistrement. Ça, c'est mon lundi, par exemple. Donc je finis
D'accord.
à 6 heures, tu vois.
Donc tu finis à 6h et là, toi, comment tu vas gérer ça après? Il y a le moment où tu es dans les cours et après à 6h, tu dis quoi? Je vais manger avec d'autres étudiants, ensuite je vais jouer avec d'autres étudiants aussi. Qu'est-ce que ça va ressembler à quoi?
Ça dépend. Après, j'ai pas de répétition ou de groupe prédéfini. Je répète tous les lundis avec eux. Non, ça se passe pas trop comme ça. C'est plus, pour l'instant, il y a beaucoup de jam avec pas mal de musiciens. Alors après, par exemple, après un lundi, je pense que je fais mes devoirs et ensuite, oui, je vais manger à la cafétéria avec les autres étudiants. Et puis, éventuellement, oui, on peut répéter ou jammer après le soir jusqu'à pas d'heure.
Ouais, d'accord. Et t'as une idée de combien d'heures de batterie tu fais par semaine?
J'en ai aucune idée. Pareil, ça dépend des semaines. Et au final, c'est vrai que j'étais assez surpris par le fait que j'ai du mal à trouver le temps de travailler à la batterie parce que on a beaucoup de devoirs, par exemple en ear training, en harmonie, en anglais, etc. Donc, si tu veux bien faire tes devoirs et enfin faire les choses correctement, au final, je dirais que j'arrive à trouver peut-être au moins 2 heures de batterie, enfin 2 heures pour jouer de la batterie tous les jours.
Ouais.
Donc le week-end un peu plus, quand j'arrive à trouver une salle, ça c'est un peu plus compliqué le week-end puisque tout le monde veut travailler sa batterie donc il y a beaucoup de demandes.
Ouais.
Je sais pas trop, je dirais peut-être ouais une quinzaine d'heures par semaine, peut-être plus. C'est pas énorme en fait, hein.
D'accord, ouais, 15 heures,
Effectivement.
une quinzaine d'heures par semaine. Oui, c'est vrai que enfin, c'est très bien pour progresser, mais effectivement, en se disant que c'est une année, en gros, une année pour ça, quoi, on pourrait s'attendre à plus. Et là, je me disais, quand tu disais que le week-end, tout le monde essaye d'avoir les salles, ça peut être une opportunité aussi de se dire, bah, je m'organise mieux en semaine pour voir quel créneau les autres ne veulent pas y aller, essayer de choper ces créneaux, et
Oui.
peut-être le week-end sortir et sortir de cet environnement, environnement Berkeley, quoi, pour voir d'autres
Ouais.
personnes, parce que j'imagine que ce genre d'école, c'est magnifique. mais ça doit être vachement toujours la même ambiance, une ambiance qui est magnifique encore une fois, mais peut-être que tu te retrouves toujours dans cette même vibe, et que tu as envie de voir autre chose. Tu es quand même en Amérique aussi, tu es français et en ce moment tu vis en Amérique. J'imagine que tu as aussi envie de voir Boston, de voir ce qu'il y a autour, ce qui se passe. Profiter des Boston, élections.
C'est une ville magnifique. Profiter des Boston, ouais, c'est une ville magnifique, franchement. Enfin, en plus, c'est super européen comme ville. Je sais pas si tu es déjà allé.
Non, j'étais jamais, mais je me baladais sur Google Maps avant en regardant où étaient les bâtiments de Berkeley. Ouais. Et ça a l'air. J'aime bien regarder les cartes pour me donner une idée de la ville. Et là, avec le canal Charles, je crois, ça a l'air.
Charles River.
Charles River.
C'est vraiment très joli.
Ça a l'air sympa.
Avec vue sur le MIT. Et les petites rues un peu commerçantes, un peu très européennes, c'est vraiment super. Donc ouais, le week-end, je fais des petites balades en général, ça fait du bien de sortir un peu de la bulle.
Ouais. D'accord. Ouais. Oui, comme tu dis, sortir de la bulle. Et j'imagine qu'il y a des moments où ça doit te saouler peut-être, où tu fais une overdose, où il y a trop. Et est-ce que c'est le cas? Est-ce que ça arrive?
Ouais, c'est arrivé il y a quelques semaines. J'avais un petit coup de blues et j'arrivais plus trop à travailler mon instrument.
Ouais.
Et du coup, je suis tombé sur un livre qui est vraiment super, qui s'appelle The Effortless Mastery, qui a été écrit par, qui a été écrit par un ancien élève de Berkeley, qui vient, je crois, tous les mois faire des workshops, qui s'appelle Kenny Werner, il me semble.
Ok.
Et du coup, c'est un bouquin qui s'adresse un peu à tous les musiciens, et donc, en gros, qui explique qu'on a tendance à trop vouloir, comment dire. Quand tu veux trop bien sonner, au final, c'est dans ces moments-là que tu joues le moins bien, en fait.
Ouais.
Et qui appelle un petit peu à se détacher un peu de l'instrument et de l'ego. Donc, il y a tout un truc un peu, comment dire,
plus profond, plus philosophique que juste technique de l'instrument, quoi.
Avec des petits exercices assez presque enfantins quand tu les lis dans le bouquin, mais en fait, quand tu les essayes, ça te Du coup, j'ai un peu redécouvert la batterie. Enfin, en gros, ouais, c'est.
Avec une
approche
différente.
Ça m'a beaucoup aidé, ce bouquin. Ouais. Et du coup, voilà, c'est reparti.
D'accord. Et est-ce que tu as un exercice que tu pourrais nous partager, dont tu te rappelles, qui t'a marqué peut-être, qu'on pourrait mettre en pratique sur la batterie?
Il y a un exercice, par exemple, il conseille tout simplement de. Alors lui, il le dit de manière un petit peu, il est pianiste, hein, je précise.
Ouais.
Il le dit d'une manière un petit peu enfantine en disant, on peut imaginer par exemple un batteur qui tape un peu totalement aléatoirement sur la batterie, sans vraiment chercher à produire un son correct, ni à produire un rythme correct, juste se laisser un peu aller. Moi, j'ai essayé d'adapter ça d'une manière un petit peu plus précise en essayant quand même de taper au centre, par exemple, des tomes et de la caisse claire. Mais voilà, il y a cet exercice-là de simplement se déplacer sur l'instrument sans essayer de penser à ce que tu joues, à ce que tu veux faire. Vraiment simplement se déplacer aléatoirement sur l'instrument.
D'accord.
Et ça, c'est pas mal. C'est pas mal comme exercice.
Ah, ouais. Donc, comme si tu laissais parler l'intuition, tu laissais juste l'intuition guider tes mouvements et taper. Mmh. Et j'imagine que ce sera exactement la même chose au piano, laisser tes doigts appuyer sur certaines touches. Ouais. D'accord. Je mettrai ça dans les liens sur. Je ferai un article sur mon blog et donc avec un lien vers le livre, je chercherai Effortless Mastery.
Il a un site, Il a un site où il explique un petit peu sa méthode. Il y a des exercices que tu peux écouter. Je crois que tu peux même télécharger son bouquin sur son site.
Ok, cool. Je mettrai ça. Et dans les cours, est-ce que Berkeley te propose des choses comme ça qui sont peut-être plus de l'ordre du développement personnel ou plus philosophique ou plus de la motivation et la confiance? Par exemple, il y a des choses qui sont fondamentales. C'est déjà être motivé à travailler l'instrument parce que c'est pas toujours facile. Et aussi la confiance pour, par exemple, les auditions, pour monter sur scène. Il y a plein de choses qu'on ne travaille pas sur l'instrument directement, mais qui sont aussi fondamentales en tant que batteur. Est-ce qu'il y a des choses comme ça qui vous sont enseignées?
Il y a énormément de masterclass et de workshops à Berkeley. Je crois que tous les jours, il y a au moins 5 ou 6 masterclass. C'est assez impressionnant. Bon, on peut pas toutes les voir, mais c'est vraiment incroyable. Et du coup, il y a des cours, je sais qu'il y a des cours de yoga, il y a des cours de danse, de mouvement pour les musiciens, ils appellent ça. Ça, c'est un cours qui fait carrément partie d'un cursus de pro musique, je crois.
Ok.
Qui est un cursus un petit peu mixte. On va faire un petit peu de ce qu'on appelle performance, c'est-à-dire vraiment travailler de l'instrument. Et aussi, on peut prendre des cours de business, etc. Donc, il y a plein de cours, enfin, pas vraiment de cours, plutôt des masterclass comment dire, tous les jours.
Ouais.
Et donc, il y a aussi beaucoup de trucs. Ça fait partie, je pense, à mon sens, du développement personnel. Mais il y a beaucoup de cours sur le business, sur
Ouais.
comment vendre sa marque, comment faire en sorte que les gens découvrent ta musique. Et ça s'applique aussi tout simplement aux musiciens entrepreneurs. Et donc, il y a pas mal de choses qui sont un petit peu en dehors de ce que les gens pensent en premier. Quand tu penses travailler dans l'instrument ou musicien, les gens pensent à vraiment quelqu'un qui sait très bien jouer de son instrument. Mais je me rends compte que ça, c'est vraiment juste une
Ouais.
partie du problème du problème. Et il y a tout ce côté business et tout ce côté développement personnel, ouais, qui est abordé ici à Berkeley. Ouais.
Je parlais récemment avec un ami qui est aussi musicien qui est à Strasbourg, là d'où je viens, et il y avait une conférence d'un homme qui est directeur artistique dans dans un label, dans un label, et il partageait le fait que faire de la musique et savoir jouer correctement, avoir un groupe qui est en place, qui marche bien et tout ça, c'est une étape, c'est très loin d'être la finalité. Et il conseillait vraiment d'avoir une cohérence globale dans la personnalité du groupe, quand on va les voir, comment ils vont bouger sur scène, dans les interviews, etc. Comment ils sont habillés, leur style, leur gueule, comment voilà, et les visuels, qu'il y ait vraiment une cohérence globale entre la musique, les visuels, les membres du groupe, du coup les paroles, l'énergie qu'ils dégagent, et que vraiment cette idée de la musique, c'est le point de départ, quoi. Et qu'après ça va beaucoup plus loin, il y a plein de choses autour.
Je crois qu'il a totalement raison de dire ça, hein. Je ne sais
Ouais.
pas exactement ce qui fait la différence, par exemple. Enfin, moi, j'ai l'impression qu'il y a énormément de super musiciens, de super groupes aujourd'hui dans tous les styles, surtout avec Internet. On s'en rend de plus en plus compte. Je me demande toujours, qu'est-ce qui fait la différence entre quelqu'un ou un groupe qui va, entre guillemets, réussir, c'est-à-dire vraiment pouvoir bien vivre de leur musique, et un autre groupe qui va jamais percer alors que leur musique est totalement valable, tu vois.
Ouais.
Il y a quelque chose de plus que juste la musique. Je
Oui,
sais pas
bien
encore.
sûr. Et est-ce que tu as trouvé des éléments de réponse pour ça? Est-ce que tu as une idée de qu'est-ce qui peut faire qu'il y a, disons, si on peut, c'est pas vraiment comparable, mais si deux groupes sont de qualité égale, et il y en a un qui marche et l'autre qui reste dans son garage et qui est jamais connu, est-ce que tu as une idée de quels sont les éléments de réponse que toi que tu pourrais apporter à cette réponse, à cette question?
Mais je pense que un groupe, enfin, gérer un groupe, c'est un vrai métier. Il n'y a pas que le côté fun de la musique. Et je pense que les gens qui ont conscience de ça et qui savent gérer un business et qui savent gérer un groupe comme un business ont un sacré avantage par rapport aux autres. Parce que il n'y a pas juste le temps que tu vas passer à créer tes compos, mais si c'est super important et ça doit être quand même la première chose que tu fais, il y a aussi le temps que tu fais que tu passes, pardon, à développer ta marque, faire de la paperasse, la musique, par exemple, bah, si tu veux protéger tes morceaux, si tu veux démarcher des boîtes, enfin des boîtes, des labels, ou des salles de spectacle, si tu veux organiser tes concerts, tes tournées, il y a énormément de travail chiant.
Ouais.
Si tu en as conscience et si tu le fais, je pense que tu as un très gros avantage sur les autres groupes.
Ouais, tout à fait. Ou alors la chance de trouver un manager ou un ami qui pourrait faire ça,
Bien sûr.
qui peut participer, un élément supplémentaire au groupe qui ne participe pas à la composition, mais qui participe au succès du groupe aussi.
Ouais. Après, on est dans une période assez serrée financièrement pour les musiciens et un manager, ça va demander forcément de l'argent, ou une maison de disques aussi. Donc, il y a ce côté-là. Moi, je pense qu'avec Internet, quand même, les groupes peuvent faire beaucoup, beaucoup du peuvent faire une grosse partie du travail par eux-mêmes.
Ouais.
Sans forcément manager, mais c'est vrai que bon, un manager compétent, ça peut aider énormément un groupe, ça c'est clair.
Tout à fait. Et il y a un livre qui a été écrit. Alors attends, je vais retrouver ça très rapidement. Je l'ai Je l'ai sur mes mails juste ici, boum, qui s'appelle « Je sais plus quoi pour le do-it-yourself musician », un livre qui va parler de tout ce qui est autour de la musique et qui te permet de réussir. En fait, c'est exactement ce dont on est en train de parler, qui va te permettre de réussir en tant que groupe, mais qui suppose que tu sais jouer, tu as un groupe, vous adorez ce que vous faites, vous êtes à fond dedans, et après, voilà, il y a tout ce qui est autour. Et donc, le livre s'appelle... Et naturellement, je ne le retrouve pas tout de suite.
Je Ça m'intéresse.
Mettrai. Ah si, voilà, je l'ai là. Music Marketing Do It Yourself Musician.
C'est un livre, c'est ça?
Voilà. Music Marketing for the Do It Yourself Musician Creating and Executing a Plan of Attack on a Low Budget. D'accord. Ouh. Donc,
bah dis donc,
littéralement, ouais, le marketing de la musique pour le do-it-yourself musician, donc pour le musicien qui fait tout lui-même, et créer et exécuter un plan et mettre en place un plan d'attaque avec un petit budget. Donc, en gros, ça s'adresse vraiment à tous ces groupes qui n'ont pas de label. Je mettrai, là, j'ai le lien Amazon France, donc c'est en anglais, mais c'est sur Amazon France. Donc voilà, ce sera facile à avoir. Et toi, aux États-Unis, tu le trouveras très facilement aussi. Je mettrai ça en lien dans l'article. Ok. Et alors toujours dans l'apprentissage. Maintenant, ça fait 3 mois que tu y es. T'as une petite expérience déjà là-bas. Si tu devais citer juste une chose que tu as apprise, ce serait quoi?
Une chose que j'ai apprise. J'ai appris énormément de trucs ici.
Ah oui, j'imagine que c'est bien le but. C'est ouais. Pour ça que t'es là. Mais s'il y avait une chose fondamentale que tu devais retenir, qu'est-ce que ce serait?
Je pense que bon, c'est quelque chose qui est très difficile à faire, surtout à Berkeley, parce que je suis entouré par les meilleurs musiciens du monde, faut pas l'oublier. Enfin, ça c'est clair que je vais pas l'oublier. Et c'est parfois pas facile de se comparer, de se juger, de savoir exactement quelle place on a, même stylistiquement, vis-à-vis des autres. Tu vois, par exemple, un super bon batteur de R&B, par exemple, qui fait des trucs que je suis incapable de faire. Après, moi, faut bien avoir conscience que moi, peut-être que je sais faire d'autres choses qu'il ne sait pas faire, par exemple. Donc, je dirais que, ouais, une chose que j'ai appris, c'est vraiment à prendre du recul là-dessus, sur la concurrence et sur, comment dire, essayer vraiment de garder une ligne fixe, un objectif, et de pas trop s'inquiéter par rapport aux autres musiciens. On a tendance à se juger assez durement, je trouve.
Ouais.
Peut-être surtout en France.
Ok.
Donc ouais, j'ai appris et je commence à moins me juger, à moins me comment dire, à moins m'inquiéter par rapport aux autres musiciens.
Ouais, moins de comparer aux autres,
ouais,
notamment.
Ouais. Faut faire son truc, quoi.
C'est cool. Tu donnais l'exemple avant de l'exercice de Kenny Werner où il fallait juste taper comme ça en se lâchant, en arrêtant, en ne jugeant pas ce que t'es en train de faire. Et,
ouais.
Et on dirait que c'est quelque chose pour toi qui est important justement d'être capable de laisser l'intuition parler sans juger ce qui va se passer. Et je pense que oui, en tant que musicien, on a tous un peu ce problème-là de ah bah l'autre il fait ça mieux que moi, il a un meilleur groove, il a un meilleur son, il arrive à jouer plus vite, blablabla. Il y a toujours un meilleur dans quelque chose, forcément. C'est faut
Exactement.
L'accepter et travailler l'instrument, surtout pour quelque chose qui met des années. Qu'on a travaillé des années, ça fait mal quand t'as travaillé pendant 15 ans l'instrument et puis t'en as un autre qui arrive et boum, il te sort un truc. Voilà, il y a des fois ça peut piquer.
Ouais, bien sûr. Ça arrive à tout le monde. Hein. Il y a toujours un musicien plus jeune meilleur que toi.
Ouais.
C'est ce que je veux dire.
On lui casse la gueule à la sortie de l'école.
Okay. Et voilà, du coup, faut bien prendre du recul là-dessus. Ouais.
Et quel est le professeur qui t'a le plus marqué et pourquoi du coup?
Un professeur que j'aime beaucoup, c'est mon prof du coup de Introduction to Music Production, qui s'appelle Sean Slade. Mm. Et donc c'est le producteur de Radiohead, enfin du premier album de Radiohead, il me semble.
Ok.
Entre autres, il a produit et mixé pas mal d'albums. Et donc bon, c'est un super prof qui a énormément d'anecdotes sur l'industrie musicale, sur l'enregistrement d'albums mythiques, etc. Donc c'est un cours super intéressant et c'est un personnage vraiment.
D'accord. Il doit avoir un certain charisme, etc. Il dégage quelque chose.
Ouais.
Ok, très bien. Et concernant la vie autour de l'école, donc là, je vois, mais on ne le verra pas dans le podcast, tu es dans un appartement du campus. Donc j'imagine que sur le campus, il y a un immeuble d'étudiants, quoi, hein, d'appartements étudiants. Donc
Ouais.
comment est la vie là-bas? Est-ce que le campus, est-ce que le bâtiment d'étudiants, il est dans le campus? Comment est la vie autour?
Le campus est assez marrant à Berkeley parce que il est un peu disséminé dans la ville, dans le quartier qui s'appelle Back Bay. Il n'y a pas vraiment de campus délimité. Il y a un gros building, celui dans lequel je me trouve, là, qui s'appelle le 160. Enfin, l'adresse c'est le 160, donc on l'appelle le 160. Je sais pas. Dans ce building, il y a la cafétéria, il y a certaines practice rooms. Et il y a aussi des chambres. Le building d'à côté, qui est le 150, là, il y a pas mal de classes de cours. C'est là où j'habite, le 150, donc celui qui est juste à côté. Pareil, il y a donc des chambres, des salles de cours, des salles de répétition. Et ensuite, un peu plus loin, genre, je dirais, je sais pas, moi, 500 mètres plus loin, il y a un autre building où il y a plutôt que des salles de répétition, des salles d'ensemble. Ensuite, sur cette rue qui est donc perpendiculaire à celle où on se trouve, il y a par exemple le bâtiment où il y a l'office du président, et ça se trouve encore à 500 mètres. Donc c'est un petit peu disséminé dans la ville. Et pareil, il y a aussi des chambres qui sont encore plus loin, je dirais quasiment, je sais pas trop en termes de distance, 10 minutes de marche. Là, c'est juste un dortoir, qui est donc un peu plus loin, mais toujours un peu sur le campus, mais on sait pas trop. Enfin, c'est assez marrant. Donc voilà, c'est disséminé dans un quartier magnifique, le Back Bay, Houston. Ouais.
Et tu t'as un coloc?
J'ai deux colocs, ouais. Il y en a un qui est américain, qui habite, il me semble qu'il est du New Hampshire, donc c'est pas très loin de Boston, ça va. Et un autre qui est coréen et qui a habité à Hawaï pendant peut-être 5 ans, je crois. Donc voilà. Plutôt deux Américains, mais deux Américains super. Vraiment, j'ai beaucoup de chance, quoi. J'ai deux colocs super, super organisés, super sérieux. Aucun souci. Ça s'est fait.
Cool. Tu disais qu'il y avait des salles de répète qui étaient dans le même bâtiment que les appartements, que les dortoirs, quoi.
Ouais, ouais, ouais.
C'est bien insonorisé?
C'est bien insonorisé, ouais. Par exemple, à mon étage, moi je suis au sixième étage, et à tous les étages du 150, du coup, où il y a tous les, enfin, à partir du deuxième ou du troisième jusqu'au sixième, c'est des appartements. À chaque étage, il y a aussi des salles de répète, qui sont juste des salles un peu vides où tu peux mettre ton instrument, que ça soit guitare, sax, voix, etc. Et ça va, c'est bien insonorisé. Et ensuite, c'est dans le basement, dans le sous-sol, où il y a les grosses salles de répétition, les salles d'orchestre et tout.
Ouais,
Donc ça.
les trucs qui sont vraiment sonores, quoi, hein, qui vont vraiment faire du bruit.
Ouais. Et ça, oui, c'est bien insonorisé, il n'y a pas de souci.
D'accord, très bien. Et alors pour finir, pour en venir à la sélection. Donc comment est-ce que tu as atterri ici? Quel est tu parlais d'audition tout début, j'attendais justement de te poser la question maintenant. Comment est-ce qu'elle s'est faite cette audition?
Alors c'est très simple. Tu t'inscris d'abord sur Internet, sur le site de Berkeley. Et ensuite donc tu choisis une journée d'audition. En général, c'est en février pour Paris. C'est un des seuls spots pour faire des vraies auditions en vrai, en France, en tout cas, ouais, c'est Paris. Ça, je crois que c'est en février. On peut s'inscrire peut-être jusqu'en janvier pour l'audition. Donc voilà, c'est au Studio Bleu. Ça remonte, hein. Fallait préparer un morceau de ton choix, du style de ton choix. Donc ils conseillent souvent vraiment de choisir un style où on est vraiment à l'aise, pas forcément de faire du jazz, parce que Berkeley c'est une école à la base jazz, même si c'est plus très vrai aujourd'hui, il y a de tout. Donc voilà, un morceau préparé. J'avais joué un solo de Brian Blade, si je me souviens bien, ouais, c'est ça, que j'avais relevé et tout. Ensuite, ils vont te demander, ça c'est des trucs de batteur, c'est pas valable pour les autres, mais donc à la batterie ils nous demandent, tu me joues une samba, 1, 2, 1, 2, 3, 4. Voilà. Donc, il faut que tu joues une samba. Tu me joues une bossa nova, etc. Tu me joues un swing en 5-4. Tu me joues un truc afro-cubain en 6-8, par exemple. Tu tac, tu tac, tu tac, tu tac. Truc comme ça. Un funk en 7. Voilà. Une sorte d'improvisation de groove. Avec des métriques, avec un tempo. Ensuite, ça dépend un petit peu du jury et de toi. C'est-à-dire qu'ils vont essayer de te pousser le plus possible et de poser des questions jusqu'à ce que tu saches plus quoi faire.
D'accord, il te
Donc, ils
pousse
m'ont
à ta
carrément
limite.
demandé, ouais,
Ouais.
exactement. Ils m'ont carrément demandé de chanter, par exemple, une sixte mineure. Il me jouait une note au piano. Il me fait, bon, tu sais chanter? Je fais oui. Donc, il me joue une note au piano. Il me fait, bah, chante-moi une sixte mineure. Donc, voilà, chanter une sixte mineure. Ensuite, joue-moi des quintolets. Donc, il me donne un tempo. Joue-moi des quintolets. OK. Voilà, il te pousse jusqu'à ce que tu sois en mode je sais pas.
Ouais. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là?
Eh ben à ce moment-là je sais plus trop jusqu'où on est allé. Je crois que ça s'est arrêté au quintolet. Il m'a fait bon, ok, très bien.
Ok.
Et ensuite il y a aussi la lecture. Ça c'est super important. En général c'est là où les gens se plantent. C'est la lecture. Donc c'est une lecture assez rien de très compliqué en fait. C'est ce qu'on appelle des kicks. Bon, les batteurs de jazz, ils font ça toute la journée. C'est batteurs de big band plutôt. Donc voilà, tu joues un groove de ton choix, il me semble. Mais bon, c'est bien de s'entraîner plutôt en swing, en bossa et en rock. Tu joues un groove et donc tu lis une partition en même temps. Et donc t'as ce qu'on appelle des kicks. C'est-à-dire, par exemple, tu vas avoir une croche en l'air sur le et du 4. Enfin, une croche en l'air, ouais, sur le et du 4. Et donc il faut que tu gardes le groove et que tu marques cette croche. Éventuellement que tu l'annonces. Tout en respectant le style, quoi. Si tu joues un truc rock, faut que ça sonne rock. Si tu joues un truc swing, il faut que ça sonne swing, tout simplement.
Ouais.
Donc voilà, des sortes de lectures comme ça. Il me semble qu'il y avait des lectures de caisse claire aussi. Donc vraiment solo de caisse claire, avec des flats, des ras. Et c'est à peu près tout. Ouais, il me semble.
D'accord. Ah, c'est vachement global là. Il te
Ah oui,
torture dans tous les sens.
surtout ça dure un quart d'heure. 10 minutes?
Ah, tout ça en 10 minutes?
Ouais.
Ok.
C'est un quart d'heure, on va dire, quand même. Pas poussé, mais ouais. Un quart d'heure. Mais c'est ultra rapide et c'est en anglais aussi, très important, c'est en anglais. Donc ça, c'est la partie audition instrumentale. Et ensuite, tu as, je crois que c'est 10 minutes, une interview en anglais, où là, donc, ils vont demander bah, pourquoi tu veux venir à Berkeley, raconte-moi un petit peu ton parcours. Des questions comme ça, voilà. Pourquoi il faudrait qu'on te prenne? Non, je sais pas. À peu près, des trucs comme ça. Donc,
Ouais.
et si cette partie un peu bah, américaine, tout simplement, il faut se vendre, il faut montrer que t'es motivé
Bah bien
en anglais.
sûr, c'est normal. Ils veulent d'abord, ils apprennent à connaître le musicien et après on veut connaître l'humain aussi. On veut savoir qui c'est qui va
Ouais.
dans cette école, c'est normal.
Tout à fait. Bien sûr.
Ok, d'accord. Et du coup, est-ce que ils t'ont bien torturé dans tous les sens, mais est-ce que tu as une idée d'à quel niveau c'est acceptable? Par exemple, si tu as dit, bon, bah, je sais pas faire des quintuplés, je ne sais pas faire une bossa nova, voilà, s'il y avait plusieurs choses que tu ne savais pas faire, est-ce que tu as une idée du niveau qui est nécessaire, en fait, pour être pris?
C'est une excellente question et c'est une question que beaucoup de gens se posent ici des fois. On ne sait pas exactement quels sont les critères d'entrée. Il y a un truc global puisque on a l'impression que, par exemple, quelqu'un qui parle très bien anglais aura peut-être plus d'avantages que quelqu'un qui parle très mal anglais. Ou bien ils essayent de voir un peu si tu es très bon dans ton style, ils peuvent te pardonner de ne pas savoir jouer une bossa. Tu vois ce que je veux dire?
Ouais.
Il y a un guitariste qui vient d'Inde, il me semble, qui fait de la guitare percussive. Il tape sur sa guitare tout en jouant des
Ouais,
notes,
ouais.
etc. Ça fait une sorte de, c'est un truc ultra original, tu vois. Et peut-être que lui, il sait pas faire une bossa nova, il sait même pas jouer une grille de jazz, mais ils l'ont pris parce que il est super bon dans son truc, tu vois. Il a un truc original.
Ouais.
Donc, c'est assez flou. Mais en tout cas, oui, je pense que si tu sais pas faire des quintolés, c'est pas très grave. Tu vois ce que je veux dire?
Ouais,
Tu peux
ouais.
quand même être pris dans l'école. Surtout qu'il faut pas oublier qu'il y a des cursus, cursus musique de film, cursus ingé son. Ils demandent quand même d'avoir un bon niveau instrumental. Donc un ingé son qui sort de Berkeley, c'est quand même un bon musicien. Mais si tu leur dis que tu veux faire ce cursus-là, ils vont pas s'attendre à que tu saches jouer des quintolets. Tu vois ce que je veux dire?
Ouais.
Donc faut mettre les choses un peu. Il y a énormément, énormément de paramètres pour les auditions.
D'accord. Il y a énormément de paramètres et évidemment ils attendent un certain niveau, mais ça reste quand même assez flou de savoir exactement quand est-ce que tu peux être sélectionné ou pas, quoi.
Ouais.
En tout cas, c'est pas pour un débutant. Il semble clair qu'en tout cas, c'est pas pour un débutant. Faut déjà avoir un bagage, un certain bagage.
Clairement, ouais. Clairement, oui. Après, pour les Américains, ce qui est assez marrant, c'est que Berkeley, c'est un collège. C'est-à-dire que la plupart des Américains sont assez jeunes, ils ont 18, 19 ans, ils
Ouais.
viennent de finir le lycée, tu vois. Alors qu'en France ou en Europe, on a tendance à penser que Berkeley, c'est une école un peu très, très spéciale, très différente, et c'est totalement vrai. Hein. Mais dans le sens où on peut y aller à 25 ans, 30 ans, c'est normal, tu vois, c'est pas choquant. Alors que pour les Américains, c'est plus un collège, il faut y aller comme si c'était une fac, tu vois.
Ouais.
Forcément, quelqu'un qui a 25 ans et quelqu'un qui a 18 ans, ils peuvent. Enfin, c'est pas qu'ils peuvent pas avoir le même niveau, mais il peut y avoir des grosses différences de niveau, tu vois.
Évidemment, bah oui. Oui, de grosses différences de niveau et grosses différences de maturité. Encore une fois, on parle de musicalité et aussi d'humain, quoi, hein. Forcément, entre quelqu'un qui a 18 et quelqu'un qui a 25, il peut y avoir potentiellement un monde entre les deux. D'accord. Et tu parlais bien anglais
Ça
avant
allait.
d'arriver?
Je croyais que je parlais bien anglais, mais
Oui.
non, je plaisante. C'est-à-dire que bah, je lisais beaucoup de bouquins en anglais, je regardais des films en anglais pour vraiment me mettre dedans, et j'avais aucun souci à comprendre, à lire un article en anglais, il y a aucun souci. Après, parler sur place, avoir une vraie conversation en anglais, c'est toujours différent. Enfin, j'ai jamais eu cette habitude-là,
Ouais.
mais on s'habitue très vite, maintenant il n'y a pas de souci. Ouais. Je pense que je
D'accord.
parlais correctement anglais, ouais, avant. Et là, ça va.
T'étais déjà capable d'avoir une conversation avant
Ouais, une petite
l'audition.
conversation, ouais.
Ok,
Ouais.
d'accord. Ok. D'accord. Et est-ce qu'il y en a d'autres des Français qui sont avec toi dans cette promo?
Ouais. Énormément de Français, surtout dans cette promo. On devrait être, je sais pas, une dizaine, peut-être une dizaine de Français et un peu plus comment dire, de gens qui parlent français, mais qui sont par exemple canadiens,
Ouais,
luxembourgeois,
d'autres
belges,
francophones, ouais.
etc. Beaucoup de Français, ouais. Enfin,
D'accord.
relativement beaucoup par rapport à, je sais pas combien d'étudiants internationaux il y a, mais enfin, il y a quand même, je croise des Français tous les jours, quoi. Ouais.
Ouais, on est partout. Et alors, du coup, la grosse question, c'est ça coûte combien une année à Berkeley?
Alors, techniquement, une année à Berkeley, ça coûte 20 000 dollars. Donc la tuition, c'est-à-dire vraiment le coût de l'école, c'est 20 000 dollars par semestre. Plus l'hébergement, à peu près. Moi, je paye 7 000 parce que j'ai une petite chambre. Normalement, c'est 9 000, donc ça fait 30 000 par semestre, donc 60 000 par an,
Ouais.
techniquement. Après, le truc qu'il faut savoir et que peu de gens sachent, c'est que il y a deux types de diplômes qu'on peut faire à Berkeley. Il y a le degree. Le degree, c'est le diplôme de base. Mais il y a aussi le diploma. Et le diploma, c'est moins cher, c'est 17 000 dollars par semestre. Voilà. Autre chose à savoir, le diploma, il n'y a pas les cours qui s'appellent liberal arts. Ça va être des cours d'histoire de la musique, les cours d'anglais, les cours de littérature, les cours de poésie. Voilà. Diploma, c'est plutôt que les cours de musique, que les cours, entre guillemets, intéressants. Et degree, c'est un truc un peu plus complet, qui est peut-être un peu plus reconnu, mais bon, ça reste Berkeley de toute façon. Donc voilà. Donc il y a quand même
D'accord.
moyen d'optimiser son année
Ok.
financièrement.
Donc il y a le degree dont tu parlais qui est le gros machin qui va être
Ouais.
60 000 par an et là tu as vraiment la pratique instrumentale, tout le côté global, théorique, etc. Et tu as le diploma qui va plus être 40 000 à l'année, c'est ça?
Le diploma qui va être ouais, 50 000 à l'année.
Ouais, 50 000 à l'année, donc en gros 10 000 de moins. Et là, on a moins de théorie, on se concentre plus sur la pratique et vraiment sur l'instrument en lui-même. C'est bien ça?
La seule différence entre le degré et le diploma, c'est qu'il n'y a pas les cours. Comment ça? Je sais pas comment dire en français. Liberal arts, c'est vraiment les cours qui n'ont rien à voir avec la musique en fait.
D'accord.
Enfin, en gros. C'est-à-dire les cours d'histoire, les cours d'anglais en général,
Ok.
les cours de. Voilà. Et sinon, le
D'accord.
reste, c'est tout à fait pareil.
Ok, sinon les restes avec les autres étudiants,
Exactement.
quoi.
C'est la même
C'est
chose.
ouais.
Sans les cours chiants.
Sans les cours chiants. D'accord. Alors, pour ceux qui écoutent ça et qui sont pas habitués au prix des universités américaines, ça peut être choquant. Et même quand on y est habitué, ça peut être choquant. Parce qu'en France, on n'a pas du tout ces tarifs-là. Et
Non.
en France, aux États-Unis, c'est tout à fait courant d'avoir ce type de prix pour une université. Alors après, est-ce que le système est à refaire ou quoi? C'est un autre débat, c'est autre chose. Mais bon, oui, c'est quelque chose que c'est clair que clairement, C'est énorme d'avoir ça sur son CV et c'est énorme l'expérience, le voyage en lui-même doit être vraiment fou. Mais il y a un prix. Il y a un prix pour ça et il faut savoir voilà si on est prêt à le faire ou pas quoi. Hein. Et est-ce que tu peux faire juste un semestre?
Bien sûr.
Tu Donc fais tu peux ce diviser que tu veux. Ça par deux quoi. Tu peux faire juste 30 000. C'est possible de.
À peu près, ouais. Ouais.
D'accord.
Mais il y a une bonne nouvelle, c'est que. Berkeley, c'est aussi une des écoles donc de musique où il y a vraiment ce côté méritocratie et on peut vraiment avoir des bourses pour réduire le coût de cette école et du coup donc tous les étudiants qui font une audition, enfin tous ceux qui font une audition pour Berkeley sont automatiquement en lice pour la bourse.
Ok.
Et donc moi j'ai une bourse de 20 000 dollars.
Ouais.
Et je connais pas mal de gens qui ont des bourses. Ça varie de, je crois que ça commence à 10 000 dollars par an, jusqu'à full tuition, jusqu'à scholarship, présidential scholarship. Donc là, ils payent tout,
ouais.
Même l'hébergement, etc., etc. Donc voilà, il y a vraiment moyen d'avoir des bourses en travaillant bien et en se préparant bien pour l'audition.
D'accord. Donc ça se joue à l'audition. Donc ça.
Ça se joue sur 15 minutes de musique.
C'est ce que je me disais. En 15 minutes, t'as gagné 20 000 dollars, quoi.
Exactement.
D'accord. Donc c'est bon à savoir. J'imagine quand ils repèrent une perle, quelqu'un où ils disent vraiment, lui, il faut qu'il vienne, il lui paye tout, quoi.
Il lui paye tout. Tout simplement. Ouais.
Ok. D'accord. Bon, bah, c'est bon à savoir aussi. Il y a moyen de s'en sortir à 20 000 dollars de moins. C'est déjà énorme. Ça fait déjà.
C'est déjà énorme.
Ouais.
C'est clair.
C'est le prix d'une bagnole.
Vraiment, je conseille à tout le monde, enfin, évidemment, si vous venez de débuter votre instrument ou la batterie en particulier, c'est pas la peine de tenter l'audition, mais vraiment, tenter l'audition pour, c'est une super expérience et on sait jamais. On sait jamais.
Et l'audition est payante?
Ouais, l'audition, il me semble que c'est 100 dollars. Et oui.
D'accord.
150 dollars même. Ouais.
Ok. Et alors, toi, tu as dit que c'était au Studio Bleu à Paris que tu l'avais faite. Et c'est des profs J'imagine que c'est des Américains qui sont en France. Et dans chaque pays, il doit y en avoir à Berlin, il doit y en avoir un peu partout. Des profs qui représentent Berkeley. Et qui t'ont auditionné, c'est pas des profs de Berkeley, c'est des
non, c'est des profs de Berkeley.
D'accord, qui se déplacent alors.
Qui se déplacent. Ah oui, c'est des profs de solfège que j'avais eu. J'avais eu trois ou deux jurys. J'avais eu deux jurys, je crois qu'ils étaient tous les deux profs de solfège à Berkeley. Ouais.
Ah, ok, d'accord. Et alors, tu disais que pour les Américains, eux, ils ont plus tendance à suivre, à aller directement à 18 ans, aller directement au college, donc à l'université, hein, comme nous on le ferait aller à la fac en France. Et généralement, quel est le profil des personnes qui vont là-bas? Est-ce que tu as tous les niveaux, différents niveaux? Est-ce que c'est des personnes qui veulent, elles veulent toutes absolument devenir pro, ou il y en a qui sont là juste pour s'amuser un an? Et quel âge à peu près? Est-ce qu'il y a un profil type ou c'est vraiment très 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 varié?
C'est ultra varié. Je crois qu'il y a une centaine de nationalités représentées à Berkeley. Au niveau des âges, peut-être que le gros de ma promo, ils ont 19 ans, 18 ans, 19 ans. Mais bon, ça va de 17 jusqu'à peut-être 25 ans, 26 ans. Et après, il y a des gens un peu plus vieux, mais qui sont un peu plus, qui sont moins représentés, quoi.
Ouais, il y en a juste quelques-uns qui doivent être là, je suppose potentiellement sont juste là pour s'amuser un an.
Ouais, mais par exemple, par rapport à... J'étais élève au MAI à Nancy, qui est une école privée de musique aussi, une super école en France.
Ouais.
Et je sais que dans ma promo, il y avait des gens qui avaient 40 ans, 50 ans. À Berkeley, j'ai pas croisé d'élèves qui ont 40 ans, 50 ans, par exemple.
Ok.
Il y a une différence. Mais après, tout est possible.
Ouais. Et alors c'est marrant ça. J'en parlais récemment. J'ai un ami qui est prof de batterie maintenant aussi à Strasbourg et qui a fait le MAI de Nancy. Et tu étais combien de temps au MAI de Nancy?
J'étais un an. C'est un cursus en un an en fait. Enfin maintenant ils ont rajouté une deuxième année, il me semble. Mais historiquement c'est un cursus en un an le MAI. Ouais.
Ok, donc en fait, t'avais déjà, toi, un gros bagage, parce que le MAI, t'as déjà, t'en bouffes
beaucoup. Ouais, surtout, par exemple, il y a des cours d'harmonie au MAI, et techniquement, c'est les cours d'harmonie de Berkeley, en fait, les quatre niveaux, harmonie 1, 2, 3, 4, qu'on fait en un an.
Ouais.
Que je veux dire? Donc,
Et
du coup,
pourquoi à
j'ai
Berkeley, ils
réussi
le
à me
font en
placer.
combien de temps?
Eh ben, comme je t'ai dit, c'est, il y a quatre niveaux d'harmonie, quatre niveaux d'ear training aussi, et ça correspond à un semestre.
D'accord,
C'est
donc
ce
ce
que
serait
c'est.
sur
Donc,
2 ans
après,
à
sur
Berkeley
deux
seulement.
ans. Voilà. Après, c'est très facile de, enfin, c'est très facile. Si t'as un minimum de connaissances, tu peux facilement éviter de faire harmonie 1, 2, 3, etc., etc. Tu vois, ce que je veux dire, c'est, tu peux toujours comment dire, test out, des cours, c'est-à-dire, passer le test,
Passer un
passer
test et
le
réussir à ne
questionnaire.
pas faire les trucs les plus simples, quoi, les
Voilà.
premiers,
Et
ouais.
si t'as un score, suffisant, je crois que c'est souvent 80% en général, eh ben, tu peux éviter ce cours et du coup, tu gagnes du temps, tu gagnes de l'argent, etc., etc. Tu vois ce que je veux dire?
Bien sûr.
Tu peux prendre des cours plus avancés. Donc, ouais, c'est ce que j'ai fait. Par exemple, en ear training, je suis en ear training 4. Donc, au prochain semestre, j'aurai plus besoin de prendre ear training et ça va me libérer des crédits. Pareil, je pense qu'il faut peut-être expliquer ça aussi à Berkeley, c'est que j'ai 13 crédits par semestre qui correspondent à une sorte de jauge du nombre de cours que tu peux prendre. Tu as des cours qui valent 2 crédits, des cours qui valent 1 crédit, 3 crédits, etc. Donc, tu peux prendre les cours que tu veux dans la limite des 13 crédits. Si tu prends plus de cours, faut payer en plus.
D'accord.
Donc voilà. Et c'est pour ça que c'est super important d'arriver bien préparé. Par exemple, théoriquement, en harmonie, en ear training, on peut facilement éviter, ouais, quasiment 2 ans d'ear training, 2 ans d'harmonie, tu vois.
D'accord.
C'est un
Ouais.
truc à faire, quoi.
Ouais. Il y a moyen que de se préparer, ça vaille le coup.
Ouais.
D'accord. Et donc, toi, t'avais 1 an, ça fait une dizaine d'années que tu fais de la batterie, t'as passé 1 an au MAI, donc tu dois déjà avoir un niveau qui est costaud avant l'audition, avant d'être arrivé à Berkeley. Mais t'encourages quand même les personnes qui n'ont peut-être même que des personnes qui n'ont jamais eu de professeur ou qui s'éclatent juste, mais qui ne sont pas débutantes, qui savent déjà jouer en groupe, etc. Tu les encourages aussi à passer l'audition?
Ouais, après, dans le cadre de quelqu'un qui a jamais pris de cours, je pense que ce serait intéressant de prendre un ou deux cours avec un bon prof avant de faire l'audition, histoire de voir un petit peu, par exemple, au niveau lecture, au niveau solo de caisse claire, technique, etc. Ce serait bien de faire une petite mise à niveau avant de faire l'audition. C'est un peu osé de faire l'audition sans jamais avoir pris de cours, mais bon, tout est faisable, hein, tout est faisable.
Ouais, bien sûr. C'est gérable. Et puis bon, bah, faut essayer. Faut bien se dire aussi que bon, l'audition, c'est 150, mais c'est pas cher pour potentiellement faire quelque chose qui peut être le rêve d'une vie, quoi, hein, de faire un truc aussi
Totalement.
énorme qui peut
Ouais.
complètement changer la donne par la suite, quoi.
Bien sûr, c'est la meilleure école du monde, tout simplement. Tous les
Ouais.
jours, ça me, comment dire, je me le rappelle tous les jours.
Ouais.
Juste de voir les élèves avec qui je suis en cours, dans tous les domaines, dans tous les styles de musique. Il y a plein d'instruments, et c'est assez incroyable, quoi. Ouais.
Et comparé au MAI, qu'est-ce que tu vois comme grosse différence? Alors bien sûr, on faut remettre les choses à leur échelle, je dirais. Le MAI est une école c'est une excellente école qui est à Nancy. J'ai rencontré plusieurs personnes qui en ont été diplômées et toutes sont d'accord pour dire que l'avant-après, et il y a une différence de fou. Elles sont
Ah
vraiment
oui.
devenues des musiciens, voilà. Et
Ouais.
Berkeley, on est en
Ah
train
ouais.
de parler de la plus grosse école du monde. Donc, enfin, plus, je sais pas si on peut dire que c'est la plus grosse école de musique du monde.
C'est
En
aussi
tout
la plus
cas,
grosse, ouais.
ouais.
Ouais,
J'imagine en nombre d'étudiants et le
ouais.
prestige des professeurs, etc. Ça doit vraiment être au top.
Ouais.
Mais
Ouais.
du coup, qu'est-ce que tu remarques comme différence fondamentale entre les deux?
J'ai adoré mon année au MAI parce que c'était ultra intensif, dans le sens où techniquement, t'as cours de 9h jusqu'à 20h, quasiment tous les jours.
Ouais.
Après, c'est des cours. La grosse différence, c'est que c'est des cours en groupe. Par exemple, le matin, t'as 3 heures d'atelier, 3 heures de, pardon, de technique de batterie avec un prof. Et donc, on était peut-être, je sais plus trop, une dizaine de batteurs. Mais bon, moi, ça m'a jamais dérangé parce que, en général, il fait travailler l'exercice à tout le monde en même temps. Et même si c'est des trucs, des fois, pas super compliqués, c'est quand même du travail, toujours un moyen de progresser, d'emmagasiner des connaissances et tout.
Ouais.
Donc voilà, c'était super intensif. Et l'après-midi, c'était des ateliers au MAI. Pareil, des ateliers où il y avait plusieurs batteurs, mais c'était super, comment dire, ouais, très prenant. Et du coup, ce qui m'a un peu choqué à Berkeley, c'est que je me retrouve avec, je sais plus trop, j'ai peut-être 16 heures de cours par semaine, quoi. Tu vois ce que je veux dire?
Ouais.
Au début, j'étais en mode, mais c'est bizarre. Je pensais que ça serait un peu pareil et tout. Mais après, je me suis aperçu qu'en fait, à Berkeley, c'est à toi de vraiment, comment dire, aller chercher ce que tu veux aller chercher en termes de connaissances. Tu vois, comme j'ai dit, il y a énormément d'ateliers, de masterclass pour tous les goûts, dans tous les domaines qui correspondent, tous les domaines qui gravitent autour du métier de musicien. Donc, il y a énormément de connaissances à avoir, énormément de trucs à apprendre à Berkeley. C'est vraiment à toi d'aller les chercher, quoi. Pareil pour monter des projets, créer des groupes, jamais rencontrer des musiciens, c'est à toi de le faire. Mais voilà, il y a tout ce qu'il faut à Berkeley.
D'accord. Donc au MAI, on va plus présenter les choses et montrer ce sur quoi on va devoir travailler, alors qu'à Berkeley, il va plutôt falloir il va falloir faire plus preuve d'indépendance, d'autonomie, de capacité à s'organiser, à se prendre en main, à choisir ce qui est bon pour toi en tant que musicien, etc., quoi.
Tout à fait. Et
Ok.
finalement, Berkeley, c'est aussi intensif que le MAI. Même si techniquement j'ai 2 fois moins d'heures de cours
Ouais.
par semaine, c'est tout aussi intensif.
Bien sûr, et ça dépend de toi. J'imagine que si tu voulais le rendre encore plus intensif, tu pourrais, quoi.
Ah, bien sûr. Ah oui. Ah oui.
Ouais. Ok, d'accord. Et écoute, super. Et alors, pour conclure, je me demandais quels sont les gros musiciens, gros musiciens en termes de popularité que l'on connaîtrait, qui sont passés par là. Alors, j'ai déjà vu que en tant que professeur, il y a John Blackwell. Alors, je crois pas qu'il est là tout le temps, mais qui passe assez souvent. Il y a John Blackwell. Il y a aussi un truc qui m'avait marqué, c'est que les musiciens de Dream Theater, donc le groupe de rock metal prog, ils sont rencontrés là-bas. Donc, un groupe de super musiciens, en gros, ils étaient tous là-bas. Donc, ça annonce. Est-ce que tu as d'autres noms de musiciens qui sont passés?
Ouais, il y a par exemple en batteur, il y a Matt Garska, qui est le batteur de Animals as Leaders, un groupe
Ouais.
de métal prog très à la mode et ultra original. Il y a JP Bouvet aussi, un batteur un petit peu moins connu, mais vraiment super super influent dans la batterie aujourd'hui, je trouve. JP Bouvet, Kole Utah, Fini Kole Utah, qui est passé, il a peut-être fait 1 semestre ou 2 semestres, je sais plus trop. Il y a Charlie Puth, je sais pas si tu connais ce chanteur
Ah non,
qui est
je vois
très à la
pas.
mode en ce moment. Il a fait quelques hits et lui il a fait carrément 4 ans à Berkeley, il a fait le cursus ingé son, etc. Diana Krall, la chanteuse. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Abbé Laboriel, batteur de McCartney, Mylène Farmer,
Ouais.
etc. Il y a Psy, celui qui a fait Gangnam Style aussi.
Ah, c'est vrai, il est passé à Berkeley.
Ouais, non, pour de
Ok,
vrai, bien
d'accord.
sûr. Steve Smith, le batteur de jazz aussi.
Ouais. Je voyais qu'il y avait, il me semble aussi, Miles Davis qui.
Apparemment.
Ouais, Miles Davis qui serait passé à confirmer, mais il y a tout un tas de gros monstres de la musique
Ouais.
qui sont passés là, ouais, de Steve Smith à Psy, quoi. Psy, ouais.
Exact. Ouais.
Ok, très bien. Et alors toi, après ça, tu te vois où dans 10 ans? L'objectif sur le long terme,
La
tu
question.
sors de ça, t'es diplômé, etc. Est-ce que t'as quelque chose de précis que tu recherches?
Tout simplement être tout d'abord un batteur occupé, c'est-à-dire par des tournées, des enregistrements pour ça peut être dans n'importe quel style en fait de musique. Je suis assez ouvert, il n'y a pas trop de soucis là-dessus. Du moment que ouais, j'arrive à tourner, à faire des concerts, à faire des enregistrements, à pouvoir en vivre, je serai heureux en tant que batteur. Et ensuite, me diriger peut-être vers une carrière de producteur, d'ingé son, produire pour les autres, mixer, se poser un peu en studio. Voilà, ça c'est un peu mes 2 gros objectifs. Après, ça peut changer, mais voili voilou.
Ouais, d'accord. Donc oui, d'abord pas partir en tant que batteur et peut-être beaucoup bouger, et ensuite s'installer
Ouais,
en tant que producteur. Ok, super, super, super. Bah écoute, merci beaucoup pour ton temps et pour ce partage.
Mais de rien, c'était un plaisir. Merci pour ton interview, merci pour ton intérêt.
Ouais, bah oui, c'était. Tu nous as donné plein de petites perles là. J'espère que ça motive des gens
oui.
Bah, à essayer quoi, hein, à se lancer ouais. pour l'audition.
Bah écoute, et... quasi rien.
Ouais, et le pour le, je mettrai le lien du coup pour l'audition. J'imagine que c'est sur le site de Berkeley que tu as vu. Tiens, ouais. Oui, ça, comment tu as été au courant qu'il y avait une audition? Comment tu as vu ça?
Ah bah c'est quand j'étais au MAI, en fait. Le MAI, c'est une école qui est partenaire de Berkeley. Et il y avait une journée où, justement, il y avait des auditions au MAI. Et j'avais loupé, parce que j'étais pas là, j'étais en région parisienne. Et du coup, je me suis dit, mince, j'ai loupé une audition pour la meilleure école du monde. Et donc, l'année d'après, je me suis dit, bon, bah tiens, je vais tenter cette audition, finalement.
Ok, très bien. Bah parfait. T'avais certainement un meilleur niveau après cet intense
ouais,
cette année,
c'était
et donc t'as pu gagner la bourse. Donc oui, c'est c'est peut-être pas mal que tu l'aies loupé en premier ouais. lieu. Très bien. Donc je mettrai le lien de Berkeley aussi, et en surveillant ouais. ça, j'imagine que ceux qui sont vraiment intéressés trouveront rapidement l'information.
Ouais, c'est sur le site officiel.
Ok. Très bien. Merci beaucoup, Alexis. À bientôt. Ciao, ciao.
Ciao.